nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Voyez votre Esprit, Seigneur, et se fera une création nouvelle, et vous renouvellerez la face de la terre. Prions. Ô Dieu qui avez donné, envoyez votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, et jouir sans cesse ces divines consolations par le même Jésus-Christ, notre Seigneur.
Ainsi soit-il.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il.
Nos saints anges gardiens,
priez sur nous.
Saint Pie X,
priez pour nous.
Saint Joseph,
priez pour nous.
Saint Thomas d'Aquin,
priez pour nous.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, nous sommes à la fin, un petit peu de la première partie au moins, du traité sur la justice. Hein. Je rappelle que la justice est une vertu cardinale, donc pour but de nous aider à contenir les blessures de la volonté. Donc la volonté étant blessée par ce qu'on appelle la malice, hein. Et donc, il va falloir une vertu spéciale qu'on appelle la vertu cardinale de justice pour nous aider à contrebalancer en quelque sorte cette blessure. Alors, nous allons terminer donc, cette partie-là. Ensuite, je pense que j'aurai presque fini aujourd'hui. La prochaine fois, nous commencerons une autre partie, toujours dans la justice, un traité un peu spécial qui est dans la justice mais qu'on étudie à part. Monseigneur Lefebvre nous disait c'est plus beau traité de la somme. Traité sur la religion. Bon, la justice, c'est quoi? C'est la vertu par laquelle on rend à chacun ce qui lui est dû. Donc il est évident que la première personne à qui on doit quelque chose, c'est le bon Dieu. Donc il y a une partie spéciale de la justice qui s'occupe de ce qu'on doit au bon Dieu, ce qu'on appelle la vertu de religion. Et dans cette vertu de religion, qui est un traité magnifique, tout simple, Mgr Lefebvre utilisait très souvent pour prêcher pour les préparations aux ordinations. Et les retraites d'ordination, il parlait très souvent ça comme base. Mais avant d'atteindre le traité de la religion, qui commence à la question 81, donc nous on en est à la question 65, de la vertu de justice. Alors, sur le polycopier, c'est à la page 99. Donc vous savez, j'ai mis ensemble toute une série de textes. Hein, le polycopier, encore une fois, ce n'est pas le cours complet, c'est plutôt les textes, pour que vous ayez les textes sous les yeux. On commence à la page 100 du polycopier, le traité sur la vertu de religion, mais en page 99, vous avez certaines choses sur la fin, les questions de la vertu de justice, c'est-à-dire question 65 à la question numéro 80. Donc il y a des questions sur les détails, enfin des détails, des points particuliers plus exactement, et qui sont très intéressantes parce qu'elles n'ont pas pris une ride, encore une fois, Saint Thomas d'Aquin ne vieillit pas. Et il y a des questions qui sont très actuelles, par exemple la question 65, celle où on en est actuellement, le titre c'est de la mutilation des membres. Et c'est quelque chose de très actuel en fin de compte, parce que c'est la grande mode chez les jeunes de se mettre des bouts de ferraille partout. Et donc il y a... C'est intéressant de voir comment, sur le plan moral, saint Thomas d'Aquin envisage la chose. Alors, il va poser d'abord la question, on va couvrir rapidement cette question. Vous verrez qu'il y a des tas de choses dans cette question qui touchent à des faits de tous les jours. Par exemple, on peut associer à la mutilation les greffes. Les greffes, est-ce que c'est une mutilation ou non? Dans quelle mesure une greffe est-elle morale? Également, il y a d'autres choses qui touchent à cette question-là, les tatouages par exemple, les implants et tout ça. Dans quelle mesure justement ces choses s'opposent à la doctrine de l'Église, dans quelle mesure elles peuvent être acceptées tout simplement comme certaines coutumes locales. Hein, donc il faut, dans ces questions-là, il faut vraiment bien utiliser la vertu de sagesse parce qu'il y a des tas de choses qui peuvent choquer par exemple profondément un Français. Mais qui ne choqueront pas une personne qui est d'une autre culture. Par exemple, si vous allez en Nouvelle-Zélande, là-bas, c'est les Maoris. Les Maoris, les hommes, ils sont couverts de tatouages depuis le haut de la tête jusqu'à la racine des pieds. Hein. Donc, les tatouages partout, c'est partie de leur culture. Bon. Et Bon, évidemment, en France, on ne rencontre pas de gens comme ça. Donc, c'est intéressant de voir les principes généraux, puis après l'application de ces principes généraux dans les cas particuliers. Donc, la règle générale que saint Thomas donne, c'est la même qu'on a déjà vue auparavant, qui va s'appliquer tout au long de ce traité, à savoir que le particulier, c'est-à-dire qu'il faut faire passer le bien particulier au service du bien général. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour sauver l'ensemble, il faut parfois sacrifier une partie. Bon, l'exemple classique que donne saint Thomas, il va revenir plusieurs fois dans ce traité, c'est par exemple le berger du troupeau. Là, j'ai le troupeau qui constate qu'il y a une brebis qui a une maladie contagieuse. Dans quelle mesure il a le droit de tuer la brebis pour protéger le troupeau ? C'est la question qui va se poser. Après, il va falloir faire l'application du troupeau aux hommes. Eh bien, saint Thomas va bien expliquer justement qu'il y a une nécessité de protéger l'ensemble du troupeau, même si pour cela, il faut sacrifier un élément du troupeau. C'est la même chose, la même application après qui va se faire pour les hommes. Dans quelle mesure ai-je le droit de me mutiler, de couper un membre ? En principe, on n'a pas le droit. Mais il est évident que si une personne a, par exemple, une gangrène qui se déclare, bon, eh bien, il faut faire très vite. La gangrène, ça va vite. Hein. Eh bien, dans quelle mesure un chirurgien a-t-il le droit de, par exemple, de couper un doigt gangréné pour sauver la main ? Mais c'est le bon sens qui va répondre. Donc, l'accessoire va suivre le principal, c'est-à-dire quoi ? On va mettre au service de l'ensemble, le corps humain, le doigt qui est malade. S'il faut sauver le doigt, s'il faut détruire le doigt malade pour sauver le corps tout entier, on peut le faire. Bien en soi, il ne soit pas normal de se couper un doigt. Et voilà ce que va expliquer, ici saint Thomas d'Aquin. Donc la première question qui se pose, on est à la question 65 de la mutilation des membres. Alors, la question est la suivante. Première question, est-il quelquefois permis de mutiler un homme ? Il faut bien voir le mot qui est important, c'est quelquefois, justement. Et donc, voilà ce que va répondre saint Thomas d'Aquin. L'autorité judiciaire, ayant le droit d'ôter la vie à ces hommes pour des crimes majeurs, peut aussi le mutiler d'un membre pour des fautes moins graves. Bon, on a vu que, on a déjà vu ça dans le passé, dans d'autres articles, que l'autorité politique, l'autorité judiciaire, avait le droit de condamner quelqu'un à la peine de mort pour sauver, soit pour son bien à lui, soit pour le bien général. Bon, soit pour son bien à lui parce qu'on ne peut pas laisser quelqu'un qui trouble toute la communauté, par exemple, ou l'ensemble du pays par des idées complètement perverses, il vaut mieux le supprimer dans certains cas s'il ne veut pas se convertir, plutôt que de laisser tout le troupeau humain être contaminé. Ben, c'est la même chose ici. Aucune personne dans la vie privée ne peut licitement mutiler un homme saint. Celui-ci y donna-t-il son consentement ? La mutilation serait une injustice envers la société à laquelle appartient chaque individu, avec toutes les facultés qui constituent son être. Mais, là on est important, si un membre gâté menace le corps, on est en droit de l'amputer avec le consentement du malade, afin de pourvoir au salut du corps entier, car chacun est chargé de sa propre conservation. On verra comment appliquer cette phrase à l'ensemble de la société. Bon. C'est évident que si un membre de la société menace le corps entier de la société, ou l'âme de la société, eh bien, on a le droit de l'amputer, même sans son consentement, pour protéger l'ensemble. Pourquoi ? Parce que le berger, ou le chef de la politique, est en charge d'une société, un groupement d'hommes. Il est évident que si dans ce groupement d'hommes, eh bien, il y a un individu qui, par exemple, cherche à empoisonner toute la communauté, eh bien, il y a un devoir pour l'autorité politique et judiciaire d'éliminer cette personne pour sauver la communauté. Donc, encore une fois, il faut avoir du bon sens. C'est-à-dire que si on peut limiter, empêcher cette personne de nuire à la société simplement en le mettant en prison, on est en prison. Mais si ça ne suffit pas, et qu'il faut aller beaucoup plus fort, attaquer beaucoup plus fort pour protéger l'ensemble de la société, être sûr que cette personne ne donne pas le mauvais exemple à d'autres personnes, et que la seule façon, c'est le condamner à mort, l'autorité a l'autorité juridique, l'autorité judiciaire, l'autorité politique, a le droit de condamner cette personne à mort s'il y a une raison proportionnée. Il faut qu'il y ait une raison proportionnée, d'accord ? Pareillement, dit saint Thomas, celui qui doit veiller à la vie d'un autre peut autoriser l'amputation d'un membre gâté, mutiler un homme dans d'autres cas, c'est une action absolument illicite. C'est-à-dire que quelqu'un n'a pas le droit de se mutiler sans une raison proportionnée. Il faut qu'il y ait une raison proportionnée. Une autorité politique n'a pas le droit de faire mutiler quelqu'un dans sans une raison proportionnée. Il faut qu'il y ait une raison proportionnée, c'est-à-dire de même que le berger ne peut pas tuer une brebis sans qu'il y ait une raison proportionnée qui est justifiée par le soin général du troupeau, de la même façon, une autorité politique ne peut pas mutiler quelqu'un sans qu'il y ait une raison proportionnée. Donc, alors, il y a d'abord une question, c'est une objection qui était très fréquente. Aujourd'hui, elle a un peu perdu son sens, mais il y a des pères de l'Église qui se sont posé la question à propos de la mutilation. C'est une objection importante. Est-ce qu'il est possible, est-ce qu'il est permis de se mutiler soi-même pour se soustraire au danger de péché? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la question que se posaient certains pères de l'Église, c'est est-ce qu'il est, il est possible pour quelqu'un qui aurait trop de tentations pour de la pureté, par exemple, de se mutiler lui-même pour fuir la tentation? Mais la réponse est non. Et c'est la raison pour laquelle Origène n'a jamais été canonisé. Origène, qui est un des plus grands docteurs de l'Église, avait fait ça pour se protéger. Et il a été, l'Église n'a jamais accepté ce qu'il avait fait. Voilà ce que dit ici le commentaire que je suis du Père Le Breton. Le saint spirituel peut toujours être obtenu, le salut spirituel peut toujours être obtenu par d'autres moyens. Tout péché dépend de notre volonté. La mutilation, d'ailleurs, ne détruit pas la concupiscence, elle la rend au contraire plus gênante. Le remède le plus efficace contre les tentations, c'est de mettre un fin aux pensées de l'esprit. Vous oubliez que le bon Dieu est obligé de donner les grâces. L'exemple classique, très très connu, c'est l'exemple de Saint Paul. Saint Paul lui-même qui avait, bon, on n'est pas précisé dans les épîtres de Saint Paul quel genre de tentation il avait. Il parle d'un aiguillon dans la chair. Mais tous les pères de l'Église pensent que l'aiguillon dans la chair, c'est une tentation terrible contre la pureté qu'il devait avoir. Bon. Saint Paul, c'était pas un poltron, hein, c'était pas un mélancolique ou un phlegmatique, hein, c'était un colérique ou un sanguin, je sais pas. Et donc, il avait une tentation très forte, qu'il appelle un aiguillon dans la chair. Il dit dans son épître, trois fois, il a demandé au bon Dieu de l'en délivrer. Réponse du bon Dieu, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Et donc, c'est pas la solution. Hein. La solution ne consiste pas à se mutiler volontairement pour se protéger de certaines tentations, parce que c'est pas ce que le bon Dieu veut. Par contre, dans d'autres cas, il peut y avoir des cas où la mutilation partielle d'un homme peut être nécessaire, si c'est nécessaire pour sauver tout individu. Encore une fois, l'exemple classique, c'est la gangrène. La gangrène, si c'est pas pris tout à fait au début, il en meurt. D'accord ? Ensuite, donc, dans cette question, il y a pas mal de sujets qui sont traités. Il y a une question à propos des coups. Est-il permis aux parents de frapper leurs enfants ou aux maîtres de frapper leurs serviteurs? Par exemple, les coups, il faut presque éteindre le magnétophone avant de répondre à cette question. Hein. Bien, tout simplement, la phrase est toute simple, hein, c'est dans le livre de la sagesse, quoi, qui aime bien, châtie bien. Qui aime bien, châtie bien. Et donc là, Saint Thomas va citer des livres, des passages du livre des Proverbes. Celui qui épargne la verge est son fils. E-H-A-I-T, la haine pour son fils. Ne refusez pas la discipline à votre enfant. Si vous le frappez avec la verge, il ne mourra point et vous délivrerez son âme de l'enfer. Bien. Donc, Saint Thomas fait quand même certaines distinctions. Hein. Moins nuisible au corps que la mutilation, parce qu'il y a moins de conséquences. La correction manuelle ne serait appartenir cependant qu'à celui qui a autorité sur un autre. Donc, n'importe qui ne peut pas faire ça. Donc, quelqu'un qui n'a pas autorité sur un enfant, par exemple, ne peut pas le châtier. Il est évident que dans le mode de châtiment qu'on utilise, il faut aussi tenir compte d'une série de circonstances. Bon, encore une fois, on ne va pas tuer un moustique avec un bazooka. Hein, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si une simple remarque verbale suffit, on s'arrête là. Bon, donc ça serait tout à fait pécamineux pour un père de famille, soumis à la colère, par exemple, sur un coup de colère, de donner une fessée épouvantable à son fils pour quelque chose qui n'est finalement pas très grave. Ça serait un péché de la part du fils. Bon. Cependant, dans certains cas, il faut obliger le corps à être soumis à l'âme. Saint Augustin a une phrase très belle, un peu vulgaire, mais il disait, les enfants, c'est comme les bateaux, ça marche par derrière. Vous savez bien ce que ça veut dire. Mais c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que, en fait, le devoir d'un père de famille, c'est d'aider ses enfants à aller au ciel. Bon, il est évident que on ne va pas châtier un enfant physiquement, sans une raison proportionnée. Mais il peut y avoir des calmes, des raisons proportionnées pour aider l'enfant justement à sauver son âme et tout simplement apprendre à l'enfant à avoir un minimum de volonté. Hein. Et si c'est pas fait, ensuite les enfants vont devenir tous des petits bandits. C'est ce qui se passe actuellement. Nos enfants sont en train de devenir des bandits tout simplement parce que les parents ne veulent plus faire leur boulot. D'accord ? Donc, attention, cette correction donc, ne saurait appartenir qu'à celui qui a autorité sur un autre. Les pères et les maîtres qui ont autorité les uns sur leurs enfants, les autres sur leurs serviteurs, peuvent l'infliger dans un but de correction et d'instruction. Donc après, c'est une question de justice, mais aussi une question de sagesse, de savoir appliquer le châtiment et proportionner le châtiment à la faute de l'enfant. C'est évident qu'on va pas, par exemple, châtier un enfant de 4 ans qui fait une bêtise comme un enfant de 10-15 ans qui fait une bêtise. Pourquoi ? Parce qu'un enfant de 4 ans n'a pas encore de raison. Bon. Et donc, il faut parfois donner une bonne tape sur la main d'un enfant qui arrête de faire une bêtise pour qu'il comprenne quelque chose qui ne va pas. Il faut aussi, ça c'est très important, beaucoup tenir compte du tempérament de l'enfant. Donc, on ne châtie pas un enfant colérique de la même façon qu'on châtie un enfant mélancolique. En règle générale, un enfant mélancolique, je rappelle qu'un mélancolique, c'est quelqu'un qui aura une façon de réagir à un stimulus extérieur, une épreuve extérieure, une croix extérieure, une blessure extérieure, il va réagir très lentement. C'est qu'il va prendre du temps avant d'avoir une réaction. Une fois qu'il a pris sa réaction, ça dure. Bon. C'est un tempérament extrêmement riche. Bon, c'était le tempérament de Sapin et Madeleine. Au contraire, un enfant colérique, c'est un enfant qui va réagir tout de suite à un stimulus extérieur et la réaction va durer dans le temps. Bon. Donc la règle générale qu'il faut bien que les parents connaissent sur un enfant, pour un enfant qui est un enfant mélancolique, il ne faut jamais, pratiquement jamais, donner un châtiment physique à un enfant mélancolique. Parce que tout est à l'intérieur chez lui. L'enfant mélancolique, c'est quelqu'un qui pense. Donc il suffit de le prendre dans son bureau, le père doit solenniser un peu la chose. Imagine un enfant qui a fait une bêtise, je sais pas quoi, qui a cassé un carreau parce qu'il a joué avec le banc de football à côté de la maison en désobéissant à l'ordre de sa maman, il casse un carreau. Bon, alors papa n'est pas content. Et donc il prend l'enfant dans son bureau, c'est un enfant mélancolique, et il lui explique, voilà, parce que c'est la conséquence de désobéissance. Maman, t'avais dit pas jouer avec le ballon à côté de la maison, tu as désobéi, voilà le résultat, il faut changer le carreau. Bon. Et puis le bon Dieu n'est pas content, maman n'est pas contente, et papa est bien triste aussi. Va dans ta chambre et réfléchir à tout ça. Le gamin, il monte dans sa chambre, il va réfléchir à ça. Bon. Par contre, si vous avez devant vous un garçon colérique de tempérament, c'est pas le péché de colère, c'est le tempérament, la réaction. Un enfant colérique, donc c'est un enfant qui réagit tout de suite et ça dure aussi, si vous lui faites le même petit discours, il lui dit, va dans ta chambre pour réfléchir. Ah, ouais, allez, il va dans sa chambre, il commence à jouer au train électrique dans sa chambre. Il ne pense absolument pas à ce qui a été fait, ce qui a été dit par son père. Parce qu'il est colérique. Bon. Et donc, l'enfant colérique, on va utiliser quelque chose qui va frapper son corps. On va dire, tu seras pris de dessert ce soir. Alors ça le touche. Bon. Par contre, l'enfant mélancolique, la règle générale, c'est qu'on ne frappe jamais l'enfant mélancolique. Parce qu'il garde tout à l'intérieur. Il y a parfois des enfants mélancoliques qui vont garder comme ça une rancune contre leur père pendant des années et des années et des années, parce que justement il est mélancolique. Bon, un enfant phlegmatique, ce soit pratiquement rien, il ne le fera plus. Vous voyez ? Parce qu'il est phlegmatique. Alors phlegmatique, c'est quelqu'un qui réagit très lentement et puis ça ne dure pas. Donc l'enfant phlegmatique, bon ben, il faut une patience d'archange pour s'en occuper. Mais surtout pas utiliser les coups avec un enfant phlegmatique. Ce serait de la folie. Et il faut savoir, c'est très important de savoir ces choses-là, surtout quand on est, par exemple, on voit aussi des tempéraments, ça ne va pas du tout non plus avec le politiquement correct, mais des tempéraments qui dépendent d'un pays. Il y a des nations, des races, pas qu'on n'a plus le droit de parler de races aujourd'hui, mais des races ont des tempéraments complètement différents. Bon, il y a des, par exemple, en Amérique du Sud, à cause de la chaleur au sud du Mexique, par exemple, les Indiens sont des mélancoliques. Ce ne sont pas des mélancoliques, des phlegmatiques. Hein. Les phlegmatiques, et les phlegmatiques, justement, c'est des gens, à cause de la chaleur très très forte, eh bien, ils vont avoir une réaction extrêmement lente pour beaucoup de choses. C'est des gens lents, mais c'est leur façon de réagir à cause de la chaleur du climat. Hein. J'avais un petit livre que malheureusement j'ai perdu dans mes déménagements qui expliquait les différents tempéraments nationaux, c'était génial. C'est un petit bouquin qui n'est pas très gros, Mais il y avait une page pour chaque pays qui expliquait les tempéraments, national du pays. Avec en général un petit dessin qui expliquait le tempérament. Il y a des trucs géniaux. Je me rappelle pour Mexique, il y avait, pour expliquer le tempérament de l'Indien mexicain, il y avait une brouette, un campesino qui était assis dans sa brouette comme ça, avec un sombrero sur la tête qui allait jusqu'au doigt de pied. Et puis en dessous, c'était marqué Indien mexicain en plein travail. Bon, évidemment, un livre comme ça, il serait interdit aujourd'hui en France, par exemple. On dirait comment, c'est du racisme, vous méprisez. Mais pas du tout. Pas du tout. Les gens sont différents. Encore une fois, on voit très bien dans le traité de la justice que saint Thomas ne croit pas à l'égalité. Il n'y a pas d'égalité entre les hommes. Tous les hommes sont différents, et physiquement, et mentalement, ont une intelligence différente, ont une âme différente, et donc il faut en tenir compte. Et vouloir faire ce que fait le gouvernement français, c'est-à-dire l'égalité pour tout le monde, c'est une injustice formelle. Pourquoi ? Parce que les gens sont différents. On ne va pas éduquer de la même façon un petit flegmatique et un petit colérique. Et si on le fait, on commet une injustice grave. Si on va expliquer ça à un professeur qui a été complètement déboussolé par l'école normale, bon courage, ils sont incapables de comprendre ces choses-là. Donc qu'est-ce qui se passe ? Ils considèrent que tous les enfants sont égaux, donc il faut tous les éduquer de la même façon et tous les former de la même façon. Et on a des catastrophes parce que justement les âmes sont toutes différentes. Il faut tenir compte des gens qui en parlent. Vous avez des enfants, par exemple des enfants de 7 ans qui ont déjà pratiquement l'âge de raison. Et puis il y a des enfants de 10 ans qui n'ont pas encore l'âge de raison. Il faut bien en tenir compte. Nous on en tient compte constamment au confessionnal. Le vol par exemple. La gravité d'un vol va dépendre de beaucoup de choses. Il ne faut pas dire par exemple, j'ai parlé à un adulte, je veux dire à un adulte, bon voler 5 euros c'est pas un péché grave. C'est un péché, c'est du vol, mais c'est un péché véniel. Pourquoi ? Parce que 5 euros c'est pas une matière grave. Mais je n'irai pas dire ça à un gamin de 10 ans. Pourquoi ? Parce que pour le gamin de 10 ans, 5 euros c'est beaucoup. Vous voyez, donc il faut en tenir compte. On voit très bien que saint Thomas d'Aquin fait justement toutes ces distinctions. Là, il y a une note donc du père Le Breton. Voilà ce qu'il dit. Lorsque saint Paul recommande aux parents de ne point pousser leurs enfants à la colère et aux maîtres de ne point user de menaces envers leurs serviteurs, il ne leur défend pas de les châtier ou de les menacer dans la vue de les corriger. Il défend seulement de les frapper et de les menacer sans discernement ni réserve. La modération devant présider à toute discipline. Remarquons ici que le pouvoir du père et du maître ne s'étend pas au-delà de la correction manuelle. Une correction plus forte implique une puissance plus grande que celle dont ils sont investis. Oui. Alors, là, on peut glisser, si vous voulez, quelques notes, justement, qui ne sont pas dans saint Thomas, parce que ça n'existait pas de son époque, et c'est des questions très fréquentes. Les gens, souvent, on a souvent du courrier électronique ou du courrier écrit, des gens qui posent des questions, par exemple, sur la légitimité des grèves, parce que la grève, c'est d'une certaine façon, ça touche à la mutilation. Bon. Donc il faut distinguer un petit peu entre les différentes grèves. Donc, j'avais un article que j'avais quelque part dans mon ordinateur, mais je ne l'ai pas retrouvé. Par exemple, pour faire des secours. Et donc, il faut distinguer entre les greffes. Il faut distinguer entre les greffes. La grande distinction, la première distinction qui se fait, c'est ce qu'on appelle une autogreffe et une homogreffe. Une autogreffe, c'est un greffon qu'on prend sur la même personne. Donc, pour des raisons médicales. Bon, l'exemple classique, c'est une brûlure. Bon, vous prenez un embout de peau sur la cuisse en général. On prend de l'épiderme et du derme. On le coupe en lamelles. En surface, si vous voulez, et on fait une greffe pour mettre sur la partie brûlée du même individu. Pourquoi on le fait du même individu ? Parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas de phénomène de rejet. C'est parfaitement moral. D'accord ? Bon, après, ce qu'on appelle les homogreffes se font sur la même espèce. C'est-à-dire, dans quelle mesure a-t-on le droit de prendre un greffon, ce qu'on appelle un greffon, c'est une partie qui va être greffée, sur un autre individu pour soigner une autre personne ? Encore une fois, il faut du bon sens. Et aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de bon sens dans le monde moderne. Donc, c'est parfaitement légitime pour, par exemple, quelqu'un. L'exemple typique, c'est les transfusions sanguines. Une transfusion sanguine, c'est une homogreffe. Donc, on prend du sang d'une autre personne pour remplacer le sang d'une autre personne qui est atteinte, par exemple, d'une leucémie ou d'un problème viral ou d'un problème. D'immunologie dans son sang, et donc on peut faire ce qu'on appelle une homographe, c'est-à-dire qu'on prend le sang d'une autre personne, mais de la même espèce, un homme, pour remplacer le sang d'une autre personne. C'est parfaitement licite. Bon, la question se complique déjà un petit peu au niveau des organes plus importants. Par exemple, dans quelle mesure est-il, c'est une question qu'on nous pose souvent, dans quelle mesure est-il possible, on a reçu souvent des lettres comme ça, monsieur l'abbé, ma femme, a, par exemple, est condamnée, elle est sous dialyse tout le temps à cause de problèmes rénaux importants, elle est en train de perdre ses deux reins, elle va mourir, est-ce que j'ai les droits de donner un de mes reins? Bon, question qu'il faut poser, êtes-vous médicalement capable de survivre avec un seul rein? D'abord. Si oui, la réponse est oui à la question. C'est-à-dire, on peut, un père de famille, un époux, aurait le droit de faire un don de son rein pour sauver la vie de sa femme, puisqu'il peut rester vivant. Bon. Est-ce qu'on aurait le droit de donner un de ses organes pour sauver la vie de quelqu'un d'autre et perdre sa propre vie? Bon. La réponse est non. Bon. C'est une question qui se posait, heureusement maintenant ça se pose beaucoup moins, c'est une question importante que les médecins se posaient parfois, entre autres avec les cas d'une femme enceinte par exemple, qui avait un problème par exemple de cardio-respiratoire, et dans certains cas, si la femme terminait sa grossesse, l'enfant allait mourir, et la femme aussi. Donc la question que j'en ai posée, monsieur l'abbé, ma femme est dans un cas comme ça, le médecin nous dit que l'enfant va mourir elle aussi si on ne fait pas un avortement, est-ce qu'on a le droit de faire un avortement pour sauver l'âme, l'enfant, pour sauver la maman? La réponse est non. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais le droit de faire quelque chose de directement positif, faire un mal pour éviter un autre mal. Rappelez-vous ce que j'ai déjà dit sur le moindre mal, on trouve la même chose. Le moindre mal n'est pas catholique du tout, contrairement à ce que racontent beaucoup de gens. On n'a pas le droit de voter, par exemple, on est posé le problème du vote, on n'a pas le droit de voter pour un individu pourri, sous prétexte qu'on veut éviter un individu encore plus pourri. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit de faire quelque chose qui va directement contre la loi du bon Dieu. On n'a pas le droit de faire un mensonge pour éviter un autre péché. Et là, c'est la même chose. Vous voyez? Alors, la question se pose aussi, les gens nous posent souvent cette question, qu'en est-il des greffes incompatible avec la survie du donneur, comme par exemple les greffes de cœur, etc. Bon. Alors, il faut répondre avec une distinction médicale, c'est que dans la pratique, il est évident que pour les premières greffes de cœur, maintenant ça se fait encore, la personne qui va recevoir le nouveau cœur, un cœur malade qui va recevoir le nouveau cœur, eh ben, on ne va pas choisir quelqu'un puis attendre tranquillement que cette personne meure, pour pouvoir sauter dessus, prendre son cœur et le donner à la personne qui a besoin d'un nouveau cœur. En soi, j'ai bien en soi, si quelqu'un est mort, il n'y aurait pas de problème d'ordre moral, avec son accord bien sûr avant qu'il meure, de prendre un de ses organes pour pouvoir sauver une autre personne. Par exemple, ça peut se faire dans certains cas assez particuliers, au niveau des yeux par exemple, une greffe de cornée. Dans certains cas, prendre la cornée d'un individu qui vient de mourir et sauver, quand il n'y a pas de problème de compatibilité sanguine, etc., pour sauver l'œil de quelqu'un d'autre. Bon. Dans la pratique, on ne peut pratiquement jamais faire ça, dans des cas de ce genre, et surtout pas pour le cœur, parce que le cœur a une survie après la mort qui est extrêmement faible. Les cellules myocardiques vont s'abîmer très vite. Dans la pratique, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne vont pas vous le dire, évidemment, mais c'est comme ça que ça se passe. C'est que quand il y a une personne qui a besoin d'une greffe de cœur et qu'on trouve une personne qui est en coma, par exemple, profond, et qui présente une certaine compatibilité, donc dans la pratique, ils disent que s'ils sont sûrs que cette personne est définitivement va pas sentir elle, va devenir un légume, un végétal, un légume, eh bien, dans la pratique, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont pas attendre pendant des heures et des heures que ce jeune homme meure pour pouvoir prendre son cœur et le transplanter. Ça s'est jamais fait, c'est impossible. Même s'il ne veut pas le reconnaître, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bon, ben, ils vont provoquer la mort de la personne qui est, dont on veut prendre le cœur pour le prendre. Évidemment, dans ce cas-là, c'est complètement immoral. C'est complètement immoral, et ça, évidemment, ils n'en parlent jamais. C'est des sujets absolument tabous. Mais dans la pratique, c'est ce qui se passe. Oui. En plus de ça, la vie n'appartient qu'à Dieu. Il y a eu des cas retentissants il n'y a pas très longtemps. Il y a eu un cas d'un jeune homme un jeune Allemand qui était dans le coma profond depuis 17 ans pour un accident de moto, je crois. Accident total, donc coma profond total. Donc il n'avait plus aucune réaction, mais il respirait. Il respirait, je me demande, en plus, il n'avait pas un respirateur. Donc, est-ce qu'il a eu une assistance cardiaque externe? Je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, il était c'est vrai, une simple vie végétative, on peut dire. Les médecins avaient dit aux parents, monsieur, madame, c'est ridicule de garder cet enfant en vie, il n'a aucune chance de s'en sortir. De toute façon, son cerveau, c'est devenu la bouillie pour chat. Il ne pouvait plus rien faire, même si un jour, il s'en sortait, il serait un légume. Et puis, un beau matin, il s'est réveillé, au bout de 17 ans. Et il a dit à ce moment-là à ses parents, j'entendais tout ce que vous disiez. Il ne pouvait pas manifester, mais il entendait tout ce que disait. Ah, vous voyez le gars qui entend le médecin quand il sortait des âneries de ce genre, c'est un végétable, c'est un légume, et il y a de la bouillie pour chat à la place d'un cerveau. Et non seulement, donc il s'est réveillé, et avec peu de séquelles. Et donc là, on touche à des mystères. Hein. Même quand j'étais en médecine, je ne suis pas médecin, mais j'ai fait un petit bout de médecine, c'était déjà des questions très très délicates pour savoir quand est-ce qu'on pouvait être certain d'une mort. Alors, en général, la formule traditionnelle de l'époque, c'était encéphalogramme plat, c'est-à-dire pas de réponse électrique du cœur, électrocardiogramme plat, pas de réponse électrique du cerveau, électroencéphalogramme plat, électrocardiogramme plat, pas de réponse électrique du cœur, et médriase. Médriase, c'est-à-dire plus de réponse de la pupille à la lumière. Mais même ça, c'est un peu limite. Parce qu'en fin de compte, on ne sait pas exactement. Alors, ce qui fait quand même très attention, donc ces histoires de greffe, c'est tout de même assez délicat. On m'a posé aussi plusieurs fois la question de savoir est-ce qu'il était licite pour une personne de faire don de son corps à la science après sa mort. Je veux dire, il faut qu'il faut faire attention maintenant. Il semble bien qu'ils ont changé les lois. Et qu'actuellement, quelqu'un qui n'a pas signé un papier comme quoi ne voulait pas que son corps soit donné à sa science, ipso facto, ils le prennent pour l'utiliser pour la science. On fait très attention à ça. Alors, la réponse à la question, en fait, c'est une réponse indirecte. C'était en soi, c'est pas un péché. Mais vu les circonstances, je déconseille fortement. Pourquoi ? Parce que les corps des personnes, dans ces cas, des corps des personnes qui n'ont pas de famille. De la route, pas de famille, bon, ben, souvent le corps est donné à la science. Bon. Eh bien, ils peuvent utiliser éventuellement certaines parties de ce défunt pour soigner certaines maladies, c'est possible, mais dans la pratique, c'est donné aussi aux universités d'anatomie, aux écoles d'anatomie en biologie, et les chirurgiens, futurs chirurgiens, ou même les étudiants en médecine, font des. Moi j'ai fait ça en médecine, en cours d'anatomie, on avait parfois des cours sur des corps humains, justement des gens comme ça, pour apprendre à reconnaître le parcours d'un nerf ou les attaches musculaires de telle ou telle donnée. Mais dans la pratique, il y a tellement d'abus, parce qu'il n'y a plus aucune morale, donc les étudiants faisaient du n'importe quoi dès que le professeur avait le dos tourné. N'importe quoi, s'amuser à prendre des bouts de corps humain pour aller mettre ça dans le sac à main des filles, c'était le grand jeu. Et puis, à cause de ça, je pense qu'actuellement, il faut refuser de donner son corps à la science à cause de ça, à cause du manque de respect de ces gens-là pour le corps, qui est quand même, qu'on le veuille ou non, le temple du Saint-Esprit, au moins pour ceux qui sont baptisés. D'accord ? Alors, les tatouages, problème des tatouages. Voilà, un peu délicat, parce que ça, encore une fois, c'est des problèmes nouveaux, c'est très à la mode maintenant. En soi, je dirais, en soi, je ne sais pas moi, une femme qui ne sait pas tatouer un petit papillon sur le bout de son nez, bon, ben, je dirais, c'est peut-être pas très malin, mais en soi, si une femme me disait, monsieur l'abbé, je veux me faire tatouer un papillon sur le bout de mon nez, est-ce que c'est un péché grave ? Je dis, non, c'est pas un péché grave, c'est une faute de goût grave, mais c'est pas en soi un péché grave. Vous voyez, on ne pourrait pas en soi, je pense, interdire. Je pense pas. Je pense, il y a peut-être des prêtres qui ne seraient pas d'accord avec ma réponse. Mais il me semble que quand c'est à ce niveau-là, ce n'est pas grave. Par contre, quand c'est sur des zones beaucoup plus importantes du corps, il faut faire un peu attention, sauf si ce sont des coutumes légitimes de certaines races. Entre autres, je voyais dans toutes les îles du Pacifique, ils avaient ça. Je ne sais pas d'où ça vient d'ailleurs. Pas simplement au Fidji. Au Fidji, il y avait en Nouvelle-Zélande, c'était les Maoris. Au Fidji, c'était pareil. Les hommes fidjiens, qui étaient des Mélanésiens, avaient souvent ces tatouages. Rotuma, l'île Rotuma, c'était une autre race, c'était des Polynésiens, on trouve aussi beaucoup ces tatouages. Donc ça peut correspondre à une culture. Donc, en soi, je dirais, s'il n'y a pas de danger pour la santé, en soi, je ne pense pas qu'on puisse dire que c'est du faute grave. Bon. Alors, il y a le problème aussi, extrêmement, des questions alors là, beaucoup plus délicates, problème des implants, tout ça. Dans quelle mesure est-ce que c'est licite et moral? Alors, encore une fois, c'est des problèmes un peu nouveaux, donc souvent chez les moralistes, il n'y a pas forcément de réponse toute faite à ces questions. Imaginez une femme qui me dise, monsieur l'abbé, j'ai un nez qui ne me plaît pas, est-ce que je peux faire rectifier le nez, faire un peu de chirurgie esthétique, parce que mon mari me dit que j'ai un nez qui est trop gros, ça ne lui plaît pas, et je sais qu'il aimerait bien que j'ai un nez plus fin, par exemple. Est-ce que je peux me faire rectifier le nez pour plaire à mon mari? C'est la question. Je pense que la réponse est oui. Pourquoi? Parce qu'il y a une proportion. Bon, une épouse a le devoir quand même de plaire à son mari. Bon, il y a une question d'entente évidemment entre les deux. Il faut quoi que ça soit équilibré. Bon, maintenant, si le mari exige que vous fassiez de refaire la tête aux pieds, c'est autre chose. Mais pour des petites choses comme ça, ça peut être parfaitement licite. Vous voyez? Donc c'est toujours pareil. Vous voyez, pour expliquer ça, je prends toujours un exemple. C'est des questions qu'on nous pose souvent maintenant. Je prends toujours un exemple des cosmétiques. C'est un peu la même règle à suivre. Imaginez une femme, une jeune fille qui dit, monsieur l'abbé, est-ce que ça peut être d'utiliser du rouge à lèvres? Bon, comment répondre à cette question? La question, c'est la fin. La fienne. Pourquoi vous le faites? Une maman qui me dit, monsieur l'abbé, moi je suis avec mon mari ce soir, il m'invite au restaurant, je mets du rouge à lèvres parce que ça lui plaît, puis je me sens plus à l'aise dans le monde d'avoir un peu de rouge à lèvres, parce qu'il y a un péché. Non. Péché veut dire même pas. Péché veut dire même pas. Moi je refuse de mettre du rouge à lèvres parce que je suis traditionnaliste et c'est pas normal qu'on mette du rouge à lèvres, je mets rien du tout, mais tant pis si ça énerve mon mari. Est-ce qu'il y a un péché? Oui. Il y a un péché véniel. Parce que vous manquez de charité à l'égard de votre mari. Votre mari ne vous demande pas de vous couper un bras pour lui faire plaisir, il vous demande de mettre un peu de rouge à lèvres. Bon. Et moi, ça m'est arrivé dans la tête, plusieurs fois, je peux le dire, même de le conseiller à certaines personnes. Parfois, des dames qui me disent, monsieur l'abbé, je ne comprends pas, mon mari ne s'occupe plus de moi, il ne m'en a plus, il a peur de moi, et puis je sais qu'il commence à être intéressé par d'autres femmes. Parfois, j'ai envie de dire à la dame, vous êtes regardée dans une glace, madame? Peut-être perdre une vingtaine de kilos et votre mari peut-être commencera à s'occuper un peu plus de vous. Voyez, il y a parfois des femmes qui font pas attention à ça et qui, moi j'ai entendu des femmes qui disent, monsieur l'abbé, c'est invraisemblable, vous donnez des conseils de modernistes. Attendez, mais on a des êtres humains devant nous. Bon, et si vous vous rendez très bien compte qu'à cause du poids que vous avez pris, ben, votre mari commence à détourner un peu de vous, il y a quand même le devoir d'État d'essayer de garder la flamme de l'amour entre les deux époux qui brûlent, ça me semble du bon sens élémentaire. Enfin, faire un petit peu attention à la façon de le faire, etc. C'est pareil, c'est la même réponse qu'on peut donner, à mon avis, pour les cosmétiques. C'est-à-dire que si une femme utilise des cosmétiques pour plaire à son mari, il n'y a pas de faute, aucune. Bon, maintenant, une femme qui me disait, monsieur l'abbé, moi, est-ce que je peux mettre un peu de poudre de perles de papa, ou des rouges à lèvres, ou des vernis à ongles, parce que dans le métier que je travaille dans un bureau, tous les filles sont comme ça, bon, moi, si je ne me mets pas un peu parfum, tout le monde se moque de moi, pour me sentir un peu plus à l'aise dans la société, est-ce que je peux faire ça? La raison, moi, je pense, à mon avis, la réponse est oui, vous pouvez, il n'y a pas de faute. Bon, maintenant, si une femme me dit la véritable raison, c'est que je veux attirer tel homme qui appartient déjà à telle autre femme, alors là, c'est autre chose. Là, il y a faute grave. Pourquoi? Parce que le péché est d'abord dans l'intention. Vous voyez? Le péché est d'abord dans l'intention. Alors là, il peut y avoir des choses beaucoup plus graves. Vous voyez? Et c'est, à mon avis, la règle en parallèle qu'il faut utiliser pour répondre à toutes ces questions concernant les implants, tous ces trucs-là. C'est-à-dire, pourquoi vous le faites? Pourquoi vous le faites? Quelle est l'intention pour laquelle vous agissez ainsi? Bon, ceci dit, il faut quand même faire un peu attention à ne pas tomber dans une tentation qui est très fréquente aujourd'hui, qui consiste à adorer son corps. C'est vraiment l'adoration du corps dans le monde moderne. L'adoration du corps. Il faut voir ce que les gens sont capables de faire pour perdre des kilos, par exemple, c'est affolant. Les gens qui sont capables de cesser littéralement mourir de faim pour perdre quelques kilos, pour être un peu plus agréable à regarder. Je lui ai demandé le quart de ça au début de carême, au mercredi décembre, pour lui dire vous pouvez peut-être faire un peu pénitence et manger 15 fois par jour pendant le carême pour faire plaisir au bon Dieu. Ah non, pas question. Mais par contre, pour perdre 10 kilos, elles sont capables de manger deux pois chiches pendant 3 mois, tous les jours, c'est tout ce qu'elles mangeront. Vous voyez ? Donc là, il faut faire un peu attention. Je pense que là, cette espèce de somatologie d'adoration du corps, quoi, qui est très fréquente, surtout à cause de toutes ces mannequins qui sont sur tous nos murs, quoi. Et on a l'impression que si on n'a pas un corps de mannequin, bon, il y a quelque chose qui manque chez nous. Et bien, je pense que là, les époux chrétiens doivent réagir un petit peu en disant, attention, on n'est pas des mannequins. Et le bon Dieu nous demande de vivre dans une vie réelle, vous voyez. Donc, c'est des problèmes assez délicats. Je pense que pour répondre à ces questions qui sont très fréquentes, de plus en plus fréquentes, qui étaient des questions qu'on n'avait jamais avant, eh bien, il faut avoir un peu de bon sens et essayer de commencer par regarder quel est le motif. Et quelle est la raison pour laquelle je veux faire ça. Est-ce que c'est un motif qui est moral ou non? Si le motif est moral, la réponse peut être oui. Et encore une fois, faire un peu attention. Vous voyez, il y a des espèces de modes qui se font. Je m'appelle au Brésil, par exemple, pratiquement toutes les femmes passent en chirurgie esthétique. Et après, c'était presque un concours de beauté par rapport aux autres, parce qu'il fallait que tout le monde ait la même pastille que les autres, vous voyez. C'est là où, à mon avis, il faut faire attention. C'est un détail, mais qui est un détail qui n'en est pas un au niveau de l'éducation des enfants. Donc, de ne pas présenter aux enfants la femme comme une espèce de modèle de mannequin. C'est pour ça que je dis souvent que la poupée Barbie fait tellement de mal dans l'éducation des petites. Parce que dans une poupée Barbie à votre petite gamine de 6 ans, elle va vouloir imiter la poupée Barbie, hein, et elle va vouloir savoir à son corps, va devenir un peu le centre de tout son univers. Par contre, si vous donnez un petit baigneur à une petite fille de 6-7 ans, elle va jouer avec le baigneur, elle va apprendre à devenir la mère famille. Vous lui faites beaucoup de bien. Mais c'est des choses comme ça. Quand j'explique certaines choses comme ça, des gens qui n'ont pas la foi, ils posent des hurlements. Par exemple, sur B, c'est le sens pour dire des choses comme ça. Mais il faut du bon sens, vous voyez ? Il faut du bon sens dans toutes ces choses-là. Alors, s'il n'y a pas de raison, ou, ce qui est très souvent le cas, des implants qui sont mis pour attirer de façon illégitime quelqu'un, vous n'avez pas le droit de tirer, alors là, il y a faute, c'est mon évident. Il y a faute. Donc, il faut que les femmes fassent attention à ça, et les hommes, ça je parle pour les gens qui m'écoutent sur Internet, que les hommes fassent attention un petit peu aux exigences. C'est pas parce que toutes les secrétaires sont habillées comme des prostituées à longueur de journée dans les bureaux qu'un chef de famille a le droit de demander à sa femme d'être habillée pareil parce qu'il veut lutter contre la tentation. Oui, parce qu'un péché, c'est toujours un péché. D'accord ? Donc, pour une jeune femme de se mettre en mini-jupe ou en décolleté plongeant dans la rue, c'est un péché. Pourquoi ? À cause de la phrase de notre Seigneur, celui qui regarde la femme de son prochain avec convoitise a déjà commis un adultère dans son cœur. Oui, encore une fois, c'est pas des questions toujours très faciles à résoudre. Hein, mais il faut faire attention. Et aussi, ça dépend beaucoup des gens. Vous voyez, il y a des personnes qui peuvent être très facilement un objet de tentation pour les autres à cause de leur plastique extérieure, leur physique. Et des personnes qui sont pas du tout un objet de tentation pour d'autres personnes à cause de leur physique. Vous voyez. Ça m'est arrivé déjà en retraite, des trucs irresponsables quand j'explique ces choses-là. On en parle en retraite dans les préparations en confession, mais parfois il y a des dames qui viennent me voir et qui me demandent, ça arrive au prédicateur de retraite, vous savez, est-ce que pour moi ça serait un péché de mettre une jupe courte? Parfois on a envie de leur dire, ça serait certainement pas un péché en soi, mais ça serait un péché contre la charité. Parce que quand on a 30 kilos de plus, on n'est pas une mini-jupe. Bon, mais faire attention à la façon de dire les choses, c'est certain. Mais vous voyez, je pense qu'il faut quand même, dans toutes ces questions-là, faire attention à cet état d'esprit qu'on trouve maintenant beaucoup chez les femmes, d'adoration du corps. On devient une espèce de culte du corps, le corps devient tout. Alors chez les hommes, ça sera la musculation, alors on voit des hommes qui vont passer des heures et des heures dans les salles de sport pour se muscler. Encore une fois, c'est pas un péché d'aller de temps en temps dans une salle de sport pour prendre du poids. Monsieur Billet a été faire du vélo pour faire des kilos en trop, il a raison. Bon, encore une fois, il faut du bon sens. Toujours pareil, quelle est la raison? Mais l'expérience, moi, m'a montré une chose, c'est pas dans les bouquins ça, mais c'est l'expérience qui montre, le nombre de ménages que j'ai connus qui se sont cassés la figure à cause des salles de musculation, il y en a beaucoup. Surtout les salles de musculation qui sont mixtes. Ouais. Alors, c'est vrai qu'il y a des gens, je connais des gens qui commencent à avoir un peu de bon sens maintenant, et qui paraît qu'ils commencent, je ne sais pas si c'est vrai, à y avoir des salles de musculation qui se réservent pour les femmes ou pour les hommes. Ouais. Et ça, c'est pas idiot, hein. Parce que le nombre, j'ai connu ça, hein. Plusieurs cas où des ménages ont commencé à marcher sur trois pattes, parce que monsieur allait faire une séance de musculation trois fois par semaine, ou deux fois par semaine, ou je ne sais pas quoi. C'est très bien, en soi, c'est pas un péché, mais avec les femmes en petite tenue juste à côté, c'est pour ruiner les ménages, c'est idéal. Hein. Et donc, faire un peu attention. Donc, pour toutes ces questions-là, bon, après, il y a des questions plus délicates qu'il faut vraiment voir au cas par cas. Et donc, je pense que les hommes doivent faire attention à ce niveau-là de ne pas traiter leur femme, comme si comme des objets. Quoi. Il faut voir que derrière le corps de la femme, il y a une âme et qu'il faut respecter cette âme. Et que il faut rappeler la grande dignité de la femme. La grande dignité de la femme, c'est Saint Paul, hein, la femme se sanctifiera par la maternité. C'est ça la grande dignité de la femme. Bon, c'est pas toujours pour si, il y a des gens qui ne sont pas mariés, des gens qui ne peuvent pas avoir d'enfants, bon, je ne sais pas quelle raison. Donc il faut faire attention à ce qu'on fait et à ce qu'on dit. Alors, on finit, je vais finir cette question, parce qu'on en est là dans le temps. Article numéro 3. Donc c'est une question, la question 65 qui parle un peu de tout, beaucoup de sujets, de la mutilation des membres. Donc on a vu la mutilation, on a vu les châtiments corporels sur les enfants. Alors mais encore une fois, il faut voir au cas par cas, on ne peut pas donner des règles générales. Est-il permis d'incarcérer un homme ? C'est-à-dire qu'on peut supprimer la liberté d'un homme pour l'empêcher de sortir et le mettre en prison. Donc, voilà ce que dit saint Thomas. Incarcérer un homme ou le retenir captif d'une manière quelconque est une action illicite à moins que cela n'ait lieu d'après un ordre de la justice comme châtiment ou comme mise en prévention. C'est-à-dire pour protéger la société ou, dans certains cas, pour protéger l'individu lui-même, c'est illicite. S'il n'y a pas de raison bien proportionnée, c'est illicite. Ouais. Donc, abuser par le péché de la liberté de nos membres, c'est mérité d'en être privé par l'incarcération. Quelqu'un qui utilise son corps pour offenser le bon Dieu, et surtout s'il le fait de façon publique, eh bien la société publique doit réagir, ceux qui sont en charge de la société doivent réagir pour préparer, pour protéger la société. Alors évidemment, aujourd'hui les gens ne comprennent plus ça parce qu'ils sortent toujours l'argument de la liberté. Ah mais je suis libre. Vous êtes libre, je dirais, à un certain côté de faire malheureusement ce que vous voulez chez vous, mais quand vous êtes dehors sous le regard de tout le monde, vous n'êtes plus libre. Parce qu'il y a des gens qui vous regardent. D'accord ? Si vous vous mettez, vous promenez tout nu dans votre maison, personne ne vous voit, c'est votre problème. Mais si vous voulez faire dehors, ça ne va plus du tout parce qu'il y a des gens qui vous voient et vous allez exposer des âmes innocentes au péché, ce qu'on appelle le péché de scandale. Il faut se rappeler la parole de notre Seigneur, malheur, par qui le scandale arrive. D'accord ? Alors, quatrième article, les péchés précédents sont-ils plus graves quand ils sont commis contre une personne liée à d'autres ? Alors voilà ce qu'il répond. Plus sont nombreuses les personnes sur qui rejaillit une injure, plus toute chose égale d'ailleurs le péché est grave. Bon, ça c'est... En fait, il fait allusion ici au péché de scandale. C'est-à-dire, si par votre tenue, par votre action, votre façon d'agir, façon de réagir dans le monde moderne, vous risquez de scandaliser toute une série d'âmes, vous risquez d'être coupable d'un péché de scandale. Hein? Et, alors là, encore une fois, il faut faire attention parce que j'ai remarqué que les gens s'arrêtent toujours en cours de raisonnement. Imaginez une jeune fille mignonne qui va faire ses courses samedi en jupe trop courte et en décolleté inconvenant. Bon, c'est sûr qu'à cause de la phrase de notre Seigneur, celui qui regarde la femme de son prochain avec convoitise a déjà commis le péché, l'adultère dans son cœur, il y a faute. Mais il ne faut pas oublier que si la jeune fille a 15 ou 16 ans, ce qui est le cas très souvent, il y a des parents derrière. Alors on parle toujours des péchés des enfants, puis on oublie la responsabilité des parents. La mère de famille qui sait que sa fille sort comme ça, habillée comme une prostituée, pour aller faire ses courses avec ses amis le samedi, qui dit rien, elle est coupable. Hein. Et celui qui est le plus coupable, c'est le père. Ça, on oublie tout le temps. Le père de famille qui sait très bien que sa femme ne dit rien et qui sait très bien que sa fille sort comme ça avec ses copines pour faire du shopping le samedi et qui dit rien, il est encore plus coupable parce qu'il est chef de famille. Donc le péché le plus grave, c'est le péché du père. Et c'est ça le drame, c'est que moi je veux bien, on voit bien ça dans les conventions générales, les préparations des conventions générales de retraite, les pères de famille ne pensent jamais à s'accuser de ça. Oui. Ils disent, mais ma fille, je lui ai dit 3 fois, elle fait ce qu'elle veut. Non, elle ne fait pas ce qu'elle veut. Parce que vous êtes responsable. Vous êtes responsable, et donc il y a tout un travail d'éducation à faire. Et en général, quand une jeune fille de 16 ans commence à sortir comme ça, c'est qu'il y a eu une carence éducative chez tout petit. Hein. C'est pour ça que, c'est un détail qui n'en est pas un, c'est que la vertu à protéger, surtout chez les jeunes filles, une vertu extrêmement féminine, qui est la vertu qui est la plus attaquée dans le monde moderne pour les jeunes filles, c'est la vertu de pudeur. Et un enfant apprend la vertu de pudeur quand il est tout petit. Hein. C'est pas à 15 ans que vous allez apprendre à une jeune fille d'être pudique. Hein. Un enfant, la vertu de pudeur, c'est la vertu qui nous fait rougir d'être nus devant les autres. C'est ça, la vertu verecundia en latin, il n'y a pas vraiment de traduction. Verecundia, c'est ça, c'est une espèce de honte salutaire. C'est la honte qui fait rougir le visage de se trouver nu devant d'autres personnes. D'accord ? Et il est évident, on voit très bien que dans le monde moderne, il s'y pousse tellement les jeunes filles à se promener, ou les femmes en général, à se promener à moitié nu dehors, c'est pour détruire la pudeur. Pourquoi ? Parce que la pudeur est la gardienne de la vertu de chasteté. Une fois que la pudeur a sauté, et tout reste. C'est comme si vous ouvrez un barrage et l'eau du lac passe par la porte verte du barrage. Et ça, on le voit très bien, toute la campagne actuelle pour faire disparaître la vertu de pudeur. C'est pour ça aussi qu'il y a toutes ces images impures partout sur tous nos murs. Pour, justement, c'est les conseils des francs-maçons du 19e, et même après, de dire saturer les âmes de vice. Pour qu'elle soit tellement, en quelque sorte, engluée dans le vice qu'elle puisse plus l'éviter. Vous voyez ? Et là, on était obligé d'apprendre aux jeunes, les pères de famille de reprendre ça à leurs enfants, apprendre à leurs enfants, à savoir identifier les yeux dans la ville, surtout en été quand il fait très très chaud, un homme doit savoir identifier ses yeux pour ne pas porter ses regards là où il ne faut pas. Et au niveau des jeunes filles, je pense que c'est capital d'apprendre, sur ce travail des mères, des mamans, d'apprendre à leurs jeunes filles à retrouver cette vertu de pudeur. Et en même temps, il y a une autre chose qui, à mon avis, est importante, qui est plus difficile à expliquer, c'est de donner à leurs enfants le sens du beau. Bon, parce que ces vêtements modernes, avec des trous partout, avec des gens qui se promènent avec un boudos dans le nez, ou dans les oreilles, ou je ne sais pas trop, on a l'impression qu'on tombe chez les sauvages, c'est d'abord aussi une faute de goût. Et donc, réapprendre aux enfants à aimer les belles choses. Vous voyez ? Et je pense que c'est très important, surtout pour une jeune fille, d'apprendre à une jeune fille de bonne famille catholique qu'elle a le devoir aussi d'être belle dans la société, belle dans le beau sens du terme, pas dans le sens de devenir un objet de désir pour les autres, parce que je veux dire, d'avoir une beauté, une dignité, c'est le mot dignité qu'il faut utiliser. Oui. Moi, c'est ça qui me frappe, par exemple, quand on va dans un grand magasin, surtout en ce moment, maintenant, c'est comme ça, pratiquement toutes les filles sont en jean, toutes. Bon. Et elles ne se rendent pas compte de ce qu'elles détruisent. Elles détruisent une partie de leur féminité. Oui. Et je pense que c'est très important pour une mère de famille d'apprendre le sens de la beauté aux enfants. J'avais une fidèle comme ça quand j'étais en Australie, qui était une couturière. Elle était très douée en couture. Et elle avait repris, c'est très chaud là-bas, c'est l'état de Queensland, c'est un peu comme la Côte d'Azur, il fait très très chaud toute l'année. Donc les gens sont obligés de s'habiller avec des vêtements légers, ça c'est obligatoire. Mais elle était toujours habillée avec une dignité extraordinaire. Et elle utilisait des anciens tissus. Où elle utilisait aussi elle travaillait beaucoup avec des tissus, avec des images du Moyen-Âge. Elle reprenait certaines des robes ou des juste corps, si vous voulez, des chemises par exemple, qui se portaient au Moyen-Âge. Et bien, elle avait un succès incroyable parce que tout le monde se retournait pour la voir. Elle se promenait par exemple dans la rue, toutes les filles étaient en jean, en short ou en mini-jupe. Et elle se promenait avec une robe longue qui allait jusqu'au bout des pieds, mais une robe tout en couleur et toute belle dans le beau sens du terme, vous voyez. Avec parfois elle avait des espèces de, elle avait des, je sais pas comment, je connais pas les noms de tous ces trucs, elle avait des espèces de dentelles au poignet, vous voyez. des choses comme ça. Elle avait toujours des choses très belles. Et elle a fini par faire son métier parce que le nombre de femmes qui l'abordaient dans la rue en disant « Mais dis donc, c'est vraiment chouette votre truc. » Et tous les hommes la regardaient et ne la regardaient pas avec un désir impur. Ils la regardaient en disant « Quelle est mignonne celle-là. » Et plusieurs fois, elle m'a dit le nombre de fois où des hommes, pas du tout dans un mauvais sens, s'approchaient de moi en disant « Mademoiselle, félicitations pour votre façon de vous habiller. Ça fait vraiment plaisir de voir une femme qui est habillée avec beauté. » Eh bien, elle a fini par en faire son métier parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se sont venues la voir en disant « Écoutez, moi j'aimerais bien avoir des vêtements comme ça, mais on ne les trouve pas. Où est-ce qu'on les trouve ? Ah, on ne les trouve pas. Est-ce que vous pourriez m'en faire ?» Elle a commencé à s'enseigner de la couture. Vous voyez ? Et c'est là où il y a tout un travail d'éducation pour apprendre ou donner aux enfants le sens du mot. Donc, alors là, par contre, il y a quelques notes intéressantes sur la question, en fin de la question 65, donc sur l'article 4, ces péchés, donc, sont-ils plus graves quand ils sont commis, quand une personne y est d'autre ? Alors voilà ce qu'il dit. Pourquoi commet-on, il pose la question suivante, pourquoi commet-on un péché plus grave en frappant un prince qu'en frappant une autre personne ? Parce que l'injure retombe sur la société tout entière. Bon, je prends toujours un exemple quand je pose ces exercices, c'est l'exemple que le père Barrière nous donnait, qui tenait du père Valet. Imaginez un soldat de deuxième classe qui a un caractère de cochon. Bon, alors, pour un oui, pour un non, il se dispute avec ses compagnons de chambre, et puis un beau jour, il envoie son poing dans la figure du voisin qui est un soldat de deuxième classe comme lui. Bon, ben, il fait un jour au trou, quoi. Hein? Et puis c'est tout. Et puis le lendemain, il se met en colère aussi, puis il envoie son poing dans la figure du lieutenant. Bon, c'est le même. C'est le même coup de poing, mais il frappe plus haut. Alors, il a passé une semaine en prison. Bon, et puis le troisième jour, il se met en colère, et puis il envoie son poing dans la figure du colonel. Bon, alors là, c'est un mois de prison. Et puis la semaine suivante, il se met en colère, il envoie son poing dans la figure du général. Bon, ben alors là, ben, je ne dis pas que c'est la pendaison, mais enfin, il va se retrouver avec une sanction beaucoup plus lourde. Pourtant, c'est le même coup de poing, mais il a frappé plus haut. Alors, les modernes, qu'est-ce qu'ils vont vous dire ? Tous les hommes sont égaux. Il ne devrait pas y avoir de différence. Mais non, justement, parce que chacun dans la société a une fonction, et il faut respecter cette fonction. Vous voyez ? Il faut respecter cette fonction. Donc, en soi, quelqu'un qui a une responsabilité plus grande, a plus de responsabilités devant la société, devant Dieu, et donc a droit à un respect supplémentaire. Oui. L'injure faite, donc, dit saint Thomas, une personne qu'un lien quelquefois unie à une autre en frappe deux à la fois, le péché par cela plus grand, bien que, à certains égards, le péché commis envers une personne qui n'est liée à aucune autre puisse emporter parfois, soit à raison de la dignité dans cette personne dont cette personne est revêtue, soit à cause du mal qui lui est fait. Bon, il y a certains respects à avoir pour certains membres de la société qui ont une autorité extérieure. Vous voyez ? Ça, au Moyen-Âge, c'était parfaitement compris. Maintenant, on ne sait plus ce que c'est. Mais il y a un devoir d'autorité, un devoir de respect qui va dépendre de la dignité de la personne. C'est une chose qui m'a beaucoup frappé chez les Indiens du Mexique, où, je vous l'ai déjà dit, ils avaient un codage de couleurs pour les vêtements qui leur permettait de savoir à qui parler. Et par exemple, dans des tas de... Au Moyen-Âge, c'était comme ça. Il y avait, par exemple, des codes de vêtements, entre autres pour les femmes, qui devaient correspondre à la classe de la société dans laquelle elles étaient. Bon. Et par exemple, une reine avait un devoir de s'habiller de façon différente d'une paysanne. Pourquoi ? Parce qu'elle représente une autorité. Bon. Alors, c'est sûr qu'il faut un peu prudent dans ce qu'on fait, dans ce qu'on dit dans ce domaine, mais je pense que c'est quand même quelque chose de très important. Et je me rappelle, chez les Indiennes du Mexique, donc elles mettaient un signe particulier lorsqu'elles étaient enceintes. Et ça leur donnait un droit supplémentaire dans la société. Et pour la petite histoire, je raconte toujours ça parce que c'est très, très intéressant. Je ne me rappelle plus le nom de ce signe. Elles avaient des femmes dans le Talcahuaca, donc elles portaient toujours des espèces de robes multicolores, toutes d'une pièce. Et lorsqu'elles étaient enceintes, elles se cousaient sur le nombril, sur le vêtement extérieur, une espèce de petite fleur noire qui représentait la maternité. Et ce qui est très intéressant, c'est que train la Sainte Vierge Marie est apparue au Mexique en 1431 à Juan Diego, est apparue vêtue à l'indienne, avec les coutumes de l'indienne, et avec ce signe sur sa sur sa robe. Et ce qui fait que les Indiens qui ont vu ce miracle extraordinaire de la tunique de Juan Diego, sur laquelle l'image de la Sainte Vierge était imprimée miraculeusement, ils ont dit, c'est une des nôtres, donc c'est notre reine. En plus de ça, elle avait le pied sur le croissant de lune, et croissant de lune, pour les Mexicains, c'était, pour les Aztèques, c'est un dieu. Donc elle avait le pied sur le croissant de lune, donc elle est plus puissante que notre dieu de la lune. Et ça a aidé énormément à la conversion du Mexique. Alors, bon, il y a beaucoup de choses à dire sur ces sujets-là. Oui, ça, c'est des domaines dans lesquels les théologiens devraient actuellement travailler un peu plus. Moi, je me rends compte, par exemple, que dans mes cours de théologie, que j'ai eu théologie morale. La théologie morale, c'est la science du confessionnal, en gros. Moi, j'ai fait mes études de théologie morale. Donc, c'était quoi, en 76, 77? Donc, ben, c'est quoi? C'est il y a 40 ans. Hein? Eh bien, il y a des choses, si vous voulez, qui nous manquent maintenant, parce qu'il y a des problèmes de morale qu'on n'avait pas à l'époque, qui se posent actuellement. Vous voyez, problème, par exemple, des tatouages pour les, ou des implants, tout ça, tout aux années 70, ça n'existait pratiquement pas. Maintenant, oui. Vous voyez? Alors, donc... on a presque terminé le traité, est-ce que c'est ça, le traité, la partie de traité de justice. Et après, il y a beaucoup de questions sur lesquelles je vais passer complètement parce que ça présente peu d'intérêt pour nous actuellement. Par exemple, il y a une question sur l'injustice dans les juges, l'injustice dans les accusés, l'injustice dans les accusateurs, etc. C'est des problèmes un peu techniques. Pour les procès, etc. Là, je vais passer assez vite. Alors, par contre, il y a encore des choses intéressantes à dire avec la question 66. Donc là, toujours dans la justice, saint Thomas va parler des conséquences du vol. Bon. Alors ça, c'est des questions très importantes parce que le vol est quelque chose de très très fréquent aujourd'hui, malheureusement. Et il va falloir couvrir un petit peu ça. Alors, on va terminer par une prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.
Amen. Nos saints anges gardiens,
priez sur nous.
Saint Pédis, Saint Joseph,
priez
Saint Thomas d'Aquin,
priez pour nous.
Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Amen.